Comment allez-vous ce matin? Ça fait plaisir de voir des têtes que je connais. Monsieur Hirle, son fils avec qui je me suis formé en théologie. C'est la première fois que je prêche dans cette église. Je m'appelle Jérémy de Pablos. J'ai un frère jumeau qui se forme aussi pour être pasteur. Donc peut-être vous nous avez croisés à des événements chrétiens, la RJ, One, toutes ces choses-là. Même si vous allez une fois le saluer et qu'il ne vous connaît pas, il va quand même vous répondre. Je finis bientôt mes trois années de stage à l'église de Réveil à Genève. Ça a été extraordinaire pour moi. Je sais que vous avez voté à l'AG un projet d'implantation à Payerne. Donc, je vais vous raconter deux, trois témoignages pour vous encourager. Les cinq dernières années, à Genève, on a implanté, l'église a implanté deux églises. Une en Suisse, dans la commune de Tenay, et l'autre juste à côté du CERN à Thoiry. Mais actuellement, il y a entre 40 et 80 de personnes dans ces deux églises, donc on est très reconnaissant. Et donc, est-ce qu'on peut arrêter peut-être le... Parce qu'avec le micro, ça va tout le temps. Mais merci beaucoup. Je reconnais l'effort pour pas que j'aille chaud. Merci, comme ça, il y aura moins de vent dans le micro. Et donc, il y a eu ces deux projets d'implantation les cinq dernières années à l'église de Réveil à Genève. Et on est très reconnaissant de ça, de voir aussi des nouvelles personnes arriver. Donc, c'est vraiment aussi pour vous encourager pour votre projet d'implantation à Payerne. L'église, en deux ans, a eu 105 baptêmes. On est très reconnaissant à Dieu. On a continué avec des sessions de baptême, 13 il y a 6 mois, et maintenant, on en a eu 12. Et sur ces 12, il y a deux musulmans qui se sont convertis, donc on est très reconnaissant. Ça a été très dur par rapport à leur famille, beaucoup de rejets. En tout cas, un, l'autre était déjà adulte, sa femme fréquentait l'église, donc c'est vraiment, ça a été un cheminement spirituel qui a été extraordinaire. Voilà, je me suis formé à la HET Pro, c'est comme ça que je connais Patrick. Où on a appris à se connaître pendant presque 3 ans et actuellement je continue avec un master de théologie à la FLTE à Vaux-sur-Seine à Paris pour ceux qui connaissent. J'ai rendu mon travail de mémoire il y a une semaine, je suis très soulagé et très reconnaissant de ça. Si on regarde le Nouveau Testament, pour une culture d'implantation, une culture d'église, je voulais vous encourager à cultiver cette culture d'église pour voir cette croissance que Dieu désire. Il y a cette culture d'authenticité, d'honnêteté qu'on doit continuellement cultiver et travailler dans l'Église. Il y a ce climat de confiance entre nous, avoir l'habitude de déléguer les choses, de mettre les gens à la bonne place avec leurs dons, et aussi avoir ce courage. Ouvrir des nouvelles églises, ça ne se fait pas juste dans la joie, mais ça demande aussi du courage. Ça demande du courage de toute l'Église, même si vous restez à Yverdon, de prier pour cette Église à Payerne. D'être flexible aussi dans d'avoir cette adaptabilité, peut-être face aux défis qui seront là, aux locaux à trouver, peut-être des agrandissements de locaux à Payerne. Et toutes ces choses-là, on les vit en tant qu'Église, même si vous n'allez jamais aller dans cette Église de Réveil à Yverdon. Une clarté dans la vision et très motivé pour la mission. C'est des points, 8 valeurs du Nouveau Testament quand on voit des nouvelles communautés s'implanter. Et c'est quelque chose qu'on cultive en tant qu'Église. Et on est tous partenaires de cette mission. En tout cas, à Genève, on prie pour vous et pour cette implantation. On se voit dans la semaine pour des réunions de prière et on prie pour vous. Avant de commencer mon message sur l'évangélisation, le témoignage, j'avais une question pour toi. Je te laisse 2-3 minutes. Qu'est-ce que la mission pour toi? Peut-être tu as quelques mots qui viennent. Je te laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que la mission pour toi? Si tu as quelques mots, peut-être des phrases complètes qui te viennent, peut-être un livre que tu as lu sur la mission. Maintenant, tu peux dire à la personne à côté de toi, j'ai la bonne réponse. Dis à la personne à côté de toi, j'ai la bonne réponse pour la définition de la mission. On va regarder rapidement la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour la mission. L'Ancien Testament, Dieu élit un peuple, le peuple d'Israël. Et on voit que cette élection, qui est explicitement écrite dans la Bible, en fait, il y a une mission de la part d'Israël, mais plutôt d'un point de vue du témoignage, d'un point de vue moral, par leur comportement. Leur comportement va témoigner aux autres nations. Ça va être ça, la manière d'évangéliser. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des ordres explicites d'aller vers toutes les nations, de pouvoir aller vers les autres, évangéliser, faire des disciples, implanter des églises. Donc on voit que la mission, il y a quand même, c'est pas la même entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce matin, on va prendre 100 textes bibliques. Pas parce que c'est cool de prendre des textes bibliques, mais pour que ça puisse nourrir notre spiritualité avec le Christ. En fait, on va prendre 5 textes bibliques, peut-être que tu en connais un, peut-être que tu en connais deux, et tu as l'habitude de pratiquer ça dans ta vie. Et il y en aura peut-être qui vont te défier. Le but, c'est de pouvoir prendre un texte biblique dans les 10 prochains jours, de le prier, de le méditer, de te mettre devant le Seigneur et de dire « Mais Seigneur, fais-moi grandir dans cette facette-là de la mission. » Parce que sûrement peut-être que dans ces 5 textes bibliques, il y en a un que tu vas dire « Mais ça, c'est la mission. » Et tu vas apprendre d'autres facettes de la mission ce matin. Premier texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. C'est ma femme qui va lire les textes.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce que le Christ va dire à ses disciples. Jésus, il a complètement accompli parfaitement la volonté du Père sur terre. Il a fait entièrement sa volonté, il a dit tous les discours, il a prononcé tous les enseignements que le Père voulait transmettre aux disciples actuels. Il a fait toutes les œuvres que le Père voulait qu'il fasse, il a guéri tous les malades qu'il devait guérir, il a délivré toutes les personnes qu'il devait délivrer, il a aimé toutes les personnes qu'il devait aimer sur terre. Il a amené les gens à croire en lui. Et maintenant, il va dire à ses disciples, c'est à vous de le faire. Comme le Père m'a envoyé il y a 2000 ans, maintenant, faites-le, vous. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est de faire la volonté du Père sur terre, annoncer les enseignements du Christ, amener les gens à croire en lui, amener les gens au salut et à faire des disciples. Et en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, la mission et l'évangélisation, puis c'est là où Dieu désire collaborer avec son peuple sur terre. Dieu désire collaborer avec toi. Dieu désire t'amener dans la mission qu'il ouvre devant son Église. Il y a comme une mission devant l'Église de Dieu et il nous dit « Mais en fait, maintenant, c'est à toi de rentrer dedans. C'est à toi de collaborer avec moi sur terre pour faire cette mission. » Et il y aura des réussites énormes dans la mission. Tu vas voir des gens donner leur vie à Christ, tu vas voir des personnes être guéries, tu vas voir des personnes trouver une vie spirituelle qu'ils n'avaient pas vue avant. Et en fait, il y a quelque chose de beau dans la réussite, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir trop d'ego, puisque tout fruit vient de Dieu. C'est lui qui procure le fruit. Donc dans la réussite, on peut remercier Dieu. Et dans la mission, il y aura aussi des échecs. Pas de problème, pas de stress. L'Église en a fait pendant 2000 ans. Mais quand il y a un échec, en fait, c'est le moment où on peut tirer des enseignements. De dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre pour pas le refaire? Pour pas que l'Église refasse cette erreur dans la mission. Donc dans la réussite, pas besoin d'avoir d'ego. Toute la gloire est à Dieu, c'est lui qui permet le fruit. Et dans l'échec, on peut apprendre des choses. Comment mieux faire la mission à Yverdon, dans vos quartiers où vous êtes? Et Dieu nous envoie auprès de nos voisins, auprès de nos amis, auprès de nos collègues, pour témoigner de son amour, témoigner, partager l'évangile qui est si extraordinaire. Ce texte nous dit aussi que Jésus va montrer à ses disciples ses mains percées, sa côte percée. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour la mission? C'est d'annoncer que Jésus, c'est vraiment le Messie, mort et ressuscité, que c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste un bon philosophe. Je ne sais pas si tu savais, mais dans l'Antiquité, où Jésus a vécu, il est allé plus loin que tous les enseignements sur l'amour de son époque. Il est allé plus loin que Sénèque, Aristote, Platon, Épicure. Et en fait, il a dit de pardonner à nos ennemis. Aucun enseignement de l'époque est allé aussi loin dans l'amour que lui. Jésus nous donne un commandement révolutionnaire au niveau de l'amour. Il nous dit, en fait, c'est la seule chose qui permet d'arrêter dans le cœur de l'homme les cycles de violence. Et Jésus dépasse tous les enseignements philosophiques et religieux de son époque au niveau de l'amour. Et en fait, les gens vont peut-être reconnaître que Jésus est un bon philosophe, mais il est bien plus que ça. Il les a tous dépassés au niveau de l'amour. Jésus, c'est pas juste un personnage historique qu'on marque 2026, on va marquer 2027, 2035, et de dire il a vécu il y a 2000 ans. Jésus, c'est la personne la mieux référencée au niveau archéologique de toute l'Antiquité que tu peux trouver. Il n'y a aucun doute de son existence sur Terre. En fait, il y a 42 sources historiques qui parlent de lui. Et pour Jules César, il n'y en a que 5. Et en fait, il faut amener, quand on parle avec les gens, à cette réalisation de dire « Mais Jésus, ce n'est pas juste un bon personnage historique, on est sûr qu'il a existé. C'est ce Messie que tu peux connaître, avoir une relation avec lui, connaître le pardon de Dieu et sa grâce dans ta vie. » Dans ce texte que je trouve extraordinaire, c'est « Jésus va dire à deux reprises que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Que la paix soit avec vous. À ce moment-là, il devait se dire, les gens, ils vont avoir des chocottes en annonçant l'évangile ou leur témoignage. Et c'est complètement normal de pouvoir avoir du stress, de se poser des questions. Mais ce n'est pas un problème. Jésus nous dit que ma paix soit avec vous. Et en fait, on peut tout simplement s'arrêter dans la prière. Quand on sent que peut-être la crainte vient, des doutes viennent, on s'arrête dans la prière. Et on se reconnecte à Dieu, on reparle à Dieu, on lui dit « Mais Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix pour faire ta mission sur terre. » Amen. Et Dieu, Jésus, le Christ, va te donner cette paix. En fait, c'est intéressant puisque la paix, elle ne se trouve pas dans l'inactivité de l'Église. C'est simple d'avoir la paix et c'est très bien d'avoir des vacances, d'être sur le transat. Mais là, Christ promet sa paix quand on va aussi en mission. Dans l'activité de l'Église, dans l'activité de la mission, dans l'obéissance à tout ce qu'on fait à sa voix, dans l'obéissance de ce qu'on fait dans notre service à l'Église, Christ nous donne sa paix. Peu importe les contextes qui nous entourent, il y a une paix dans notre cœur qu'on reçoit quand on fait de la mission. On doit juste, des fois, s'arrêter devant le Christ et dire « Mais Seigneur, renouvelle-moi de ton esprit, donne-moi ta paix. » C'est ça qui me permet d'aller vers l'autre. Dans ce calme et cette paix. Amen. On va prendre un deuxième texte dans l'évangile de Marc, chapitre 16, du verset 15 à 20.
Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des poisons, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient.
Amen. De nouveau, il y a une mission, il y a une direction qui s'offre à l'Église. Une direction, c'est aussi un mouvement, quelque chose où on va aller de l'avant. L'autre chose, c'est Christ nous dit, mais en fait, il y a aussi une protection sur les personnes que je vais envoyer en mission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il dit, les gens vont boire des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Mais ça nous rappelle une autre histoire du livre des Actes où Paul est sur cette île après avoir échoué et où un serpent le mord. Et en fait, on voit qu'il y a quand même une faveur de Dieu sur son église quand elle est en mission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de fatigue, mais il y a quand même une faveur de Dieu sur son église quand on est en mission. Et ça, c'est quelque chose de si important de se le rappeler. Dieu est avec nous, il nous protège, il nous demande de réfléchir, de savoir comment on va faire l'implantation, mais il s'occupe aussi des choses où des fois on n'a pas le temps, où on n'a peut-être pas vu des angles morts. Il va nous utiliser dans sa mission et il y aura sa faveur sur son église. Autre chose, on voit que bah en fait, dans la mission, au travers de la prédication que tu vas faire, peut-être on explique quand l'évangile explicitement ou ton témoignage personnel, un bout de ce que tu as vécu avec le Christ, en fait, on va vivre des choses miraculeuses. L'expulsion de démons, les gens vont être libérés spirituellement, le parler en langue, la guérison, quand tu vas prier pour les malades. Et toutes ces choses-là, moi j'aimerais t'encourager, quand tu témoignes de ta foi, de juste demander aux gens, mais est-ce que tu as un besoin ? Une guérison émotionnelle, une guérison physique, est-ce que tu as un besoin peut-être pour trouver un travail, un logement ? En fait, moi, je te témoigne de ma foi, et en fait, est-ce que tu as peut-être un sujet de prière pour voir Dieu agir dans ta vie ? Et même si on l'explique avec notre bouche, on partage notre foi, on peut toujours finir par dire, est-ce que tu as un besoin, est-ce que je peux prier pour toi, pour quelque chose, ta famille, un lien peut-être relationnel autour de toi qui s'est arrêté, que tu as envie peut-être que ça reprenne, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, on amène les deux, autant la parole et autant l'intervention de Dieu. Est-ce que tu as un besoin particulier et je peux prier pour toi ? On va prendre un troisième texte ensemble, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 45 à 49.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit : Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Amen. Je vous ai dit que j'étais marié depuis presque 2 ans et 4 mois maintenant. Et on fait des fois de la cuisine ensemble. Et là, tu te dis, waouh, c'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. On coupe de faire la cuisine ensemble. Et en fait, pour faire un bon plat, tu le sais, il faut qu'on suive une recette. Je ne te parle pas de pâtisserie là. Juste d'un repas standard. Et en fait, qu'est-ce que la recette de l'évangile en quelques mots ? Qu'est-ce que l'évangile, peut-être en 4 mots, en 1 phrase, et en fait, on le trouve dans ce texte-là ? Qu'est-ce qu'on annonce quand on parle de l'évangile ? Ce texte est très clair. L'évangile, c'est la mort, la résurrection du Christ. Et le pardon des péchés, mais pas n'importe comment, par la repentance. On n'est pas dans un salut universaliste qui dit que tout le monde sera sauvé. En fait, le pardon des péchés, on le reçoit quand on se repent, quand on se tourne vers Dieu, quand on lui demande pardon. Son pardon est donné à chacun d'entre nous gratuitement. Mais il y a ce besoin de se tourner vers Dieu. Donc dans la mission, qu'est-ce qu'on annonce ? La mort, la résurrection du Christ, le fait que les gens soient pardonnés de leurs fautes. Mais en demandant à Dieu, en se tournant vers Dieu. Ça fait 12 ans que je suis chrétien et converti, et je vous assure, le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec les gens et que je leur dis, mais est-ce qu'on a fait faux ? Est-ce que tu as fait faux dans ta vie ? Je crois que personne n'a osé de me dire, non, j'ai jamais fait faux. Il y a une honnêteté quand il y a un climat de confiance avec l'autre où les gens savent qu'on a besoin de pardon. Et en fait, c'est là où l'évangile est pertinent. C'est de dire qu'il y a ce pardon immérité, complet sur tout ce qu'on fait de faux, grâce à Christ et son œuvre à la croix. Amen. Donc quand on partage l'évangile, on partage pas juste le fait que les gens ont fait faux. Et en fait, on n'est pas là pour accuser. On partage le pardon de Dieu. On partage sa mort, sa résurrection, le pardon par la repentance. On va prendre un quatrième texte qui se trouve dans le livre des Actes. Actes 1, versets 4 à 8. Si tu es dans une église charismatique et pentecôtiste, tu l'entends tous les 6 mois ce texte.
Comme ils se trouvaient avec eux, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Amen. Ce texte nous dit qu'il y a une puissance qui est donnée à l'Église, qui est arrivée pour toute l'Église, et ça, c'est un moment unique dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas juste pour les responsables religieux dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, à la Pentecôte, c'est pour toute l'Église. Ce texte, il nous dit qu'il y a cette puissance, et cette puissance, elle est renouvelée dans notre vie, cette motivation pour aller vers l'autre, cette force qui est donnée pour le témoignage par notre communion avec le Christ, par nos temps personnels avec lui, la prière, la lecture de la Bible, les temps de louange. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est ce moteur, c'est vraiment c'est la personne qui va nous redonner cette motivation, cette force et cet élan vers l'autre. Et ce texte est si important pour nous le rappeler, de dire, mais quand je prends du temps avec le Seigneur, quand je prends du temps avec le Christ, quand je prie, quand je loue Dieu, il y a ce moteur, le Saint-Esprit qui nous dit, mais en fait, va partager mon évangile. Il y a quelque chose qui s'allume dans notre cœur et cette motivation qui vient. Donc le premier point de ce texte, c'est vraiment ce moteur, cette motivation pour aller vers l'autre. Mais la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit, il nous donne aussi l'habilité, la sagesse de faire la mission. Dans les défis de la mission, quand il y aura des problématiques, quand il y aura des situations compliquées qui vont émerger, en fait, il y a une sagesse que Dieu veut donner à son Église pour accomplir cette mission. Donc le Saint-Esprit, c'est autant ce moteur, cette force d'aller vers l'autre, cette passion d'aller vers l'autre, et autant aussi la sagesse qui va être donnée d'en haut pour faire la mission. Comment est-ce qu'on peut mieux aimer? Comment est-ce qu'on peut mieux rejoindre l'autre? Et le Saint-Esprit, dans tous ces défis, même si vous savez comment fait l'Église, une équipe de louanges, une bonne équipe d'anciens, des équipes motivées pour l'enfance, quartier libre, il y aura des défis où le Saint-Esprit va donner des réponses qui seront adaptées au contexte. Dans la prière. Donc Dieu donne par le Saint-Esprit cette habilité, cette sagesse de faire l'Église aussi, dans des circonstances et des temps aussi particuliers. On va prendre maintenant le cinquième texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 du verset 16 à 20.
Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Amen. Ce texte, ce cinquième texte, en fait, nous permet de conclure cette ordre missionnaire parce que le but, ce n'est pas juste de faire des convertis, mais ce texte nous dit, en fait, le but, c'est de faire des disciples, d'aller plus loin que juste à amener les gens au salut. Et c'est pour ça que toutes les églises locales existent, et c'est pour ça qu'on ouvre des nouvelles églises. Je ne sais pas si tu savais, mais en France, une église évangélique ouvre tous les 10 jours. Et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour l'Église. Et en fait, on ouvre des églises locales pour que les gens puissent devenir des disciples. Pas juste des chrétiens qui connaissent quelque chose de la Bible, mais vraiment qui puissent approfondir leur vie spirituelle. On veut atteindre une maturité spirituelle, émotionnelle, dans notre caractère, au niveau intellectuel, connaître davantage de Dieu. Et tout ça, ça se fait par la vie de l'Église locale. Donc ce texte nous dit, ok, allez, faites des convertis, mais qu'ils puissent devenir des disciples matures par toutes les activités que l'Église propose les groupes de maison, les cultes le dimanche, les groupes de jeunes, tous les événements qui sont faits à côté de l'Église, la RJ, toutes ces choses-là, qui vont permettre à cette maturité chrétienne de se développer. Parce que Dieu veut pouvoir développer notre vie entière, notre caractère, notre maturité émotionnelle, résister aux choses plus compliquées dans la vie, répondre comme Christ aurait répondu. Toutes ces choses-là, Dieu veut nous façonner pour être des chrétiens encore plus matures profondément. Une autre chose que ce texte nous dit, c'est tellement soulageant pour l'Église. Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus a toute autorité dans la mission. Pas de souci. Et on part depuis cette vérité pour aller vers l'autre. On part depuis cette vérité pour implanter une église. Jésus a toute autorité, il contrôle toutes les choses. Il y a un socle stable qui ne va jamais bouger. C'est l'autorité complète du Christ. Et on part depuis là pour implanter une église. On part depuis là pour évangéliser. Dieu est souverain, il contrôle les choses. Même si on est dans des contextes peut-être géopolitiques tendus, Dieu est complètement souverain. Dieu est souverain. Et ça, ça nous donne une paix profonde pour faire la mission, pratiquer ce que Jésus nous demande de pratiquer. Je vais maintenant t'expliquer 2-3 témoignages. Il me reste combien de temps ? Trop bien, on m'a dit 1 heure. Non, je suis à Genève depuis... Donc mon dernier culte officiel était dimanche dernier pour commencer dans l'église de Réveil à la Chaux-de-Fonds en septembre. Et donc il y a 1 année et demie, un jeune arrive à la fin du groupe de jeunes, je parlais de qu'est-ce que la repentance, de revenir vers Dieu, voilà toutes ces choses-là. Et il vient vers moi, il me dit « Jérémy, ça fait 2 jours que je vis un réveil spirituel intérieur dans mon cœur. Comment je fais pour pas que ça s'arrête ?» Et là je lui dis bah, « On peut se voir le matin avant le travail et on va boire un café ensemble, on va parler de tes questions, on va prier ensemble, lire la Bible. » Et donc on se voit de 7h30 à 8h ensemble. La première fois qu'on se voit donc entre le groupe de jeunes et ce moment-là, moi on a juste pris rendez-vous, je lui ai rien dit de faire, je lui ai pas donné de conseils sur comment davantage mettre Dieu dans sa vie. Et il me dit Jérémy, en fait j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire de l'alcool, il prenait des photos de filles dénudées, il a tout arrêté sans rien que je lui dise, juste par la conviction du Saint-Esprit et tout ce que Dieu fait. Et 1 année et demie après, donc ce mois de janvier, il était en mission au Sénégal. Et en fait, il y a des gens, quand ils se convertissent, ça va très rapidement. Et lui, donc, on s'est vu plusieurs fois. On a prié ensemble, on a lu la Bible, j'ai pu répondre à certaines de ses questions. Il a décidé de se faire baptiser. Et 10 mois après, il était en mission au Sénégal. Amen. Et on voit des choses comme ça se passer qui sont extraordinaires. Quand Dieu vient vraiment agir dans la vie des gens. Je vais vous expliquer un autre témoignage qui s'est passé pour un de mes anniversaires. On a pris un temps de louange au début d'une soirée d'anniversaire. Et la soirée passe. Et je vois quelqu'un que je ne connais pas à mon anniversaire. Et là, j'allais gentiment dire à cette personne, c'est le moment de partir. Et je commence à lui parler. Il me dit, tu veux vraiment savoir pourquoi je suis là ? Et je lui dis, volontiers. Et il allait dormir et il y a une présence qui est venue dans sa chambre. Il est sorti de chez lui et il a entendu la musique. Et il est venu à notre anniversaire. Et là, j'étais là, beau Dieu, il met tout en place, là, c'est le moment de témoigner. Et là, on lui parle de Jésus et il accepte le Seigneur dans sa vie. Amen. Et il y a des moments où Dieu met tout en place pour juste rentrer dans son œuvre. Mais notre rôle, c'est de rentrer dans les portes ouvertes qu'il a devant nous. Il y avait, je vais encore vous raconter un témoignage qui s'est passé dans ces 105 baptêmes en 2 ans à l'église de réveil de Genève. Il y a une dame qui vient au cours des baptêmes et en fait elle se pose dans la salle et elle a été guérie instantanément sans qu'on prie pour elle. Elle est juste venue, elle s'est assise et après, à la fin du cours elle est venue vers nous, elle a dit « juste que vous sachiez, je me suis assis, toutes mes douleurs de dos sont parties et elle a été complètement guérie. Amen ». Ça, c'est quand l'œuvre de Dieu nous dépasse. Et ça, c'est quand on rentre en mission, dans la mission qu'il a préparée d'avance pour nous. Donc, je vous propose qu'on se lève ensemble et on va prier pour cette implantation à Payerne, pour le témoignage, toute cette équipe qui est en place, qui prie déjà là-bas. Et on va vraiment prier pour cette église vivante, tout ce qui va être fait par le biais de ces personnes impliquées. et tu connais peut-être leur nom, tu peux prier spécifiquement pour eux. Élevons nos voix ensemble là où on est. Seigneur Jésus, on te prie, Père, de poser ta main. On te prie, Jésus. Seigneur, merci pour cette implantation et on te remet toute l'équipe. Seigneur, merci pour cette vision. Père, merci pour la conviction aussi que l'AG a eu aussi de voter pour ça. On te remet toute l'équipe, Seigneur, on te remet les liens, on te remet, Seigneur, toutes ces personnes qui vont être attirées aussi par ta voix. Merci, Père, de bénir pour les conversions, de toucher, de rencontrer, Père, vraiment cette assemblée à Payerne. Père, on bénit ce lieu, Jésus. Tu es un peuple nombreux là-bas et on te prie vraiment de bénir les responsables, de poser ta main, de renouveler, Seigneur, la motivation, de nous donner ce courage, Seigneur, aussi pour tous les projets que tu as à Payerne, Seigneur. On bénit ton nom, Jésus-Christ, vraiment, et on te prie de bénir cette assemblée encore plus. On va continuer avec un temps de prière pour les malades et la guérison. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient qu'on prie pour eux et pour elles? Maintenant, juste lever la main si c'est des problèmes physiques. Vous, madame, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Laissez bien haut votre main. Trop bien. Et j'avais juste certaines paroles. Je voyais une femme avec des problèmes de cheville. Est-ce que cette personne est là? Femme avec des problèmes de cheville. Vous, madame, d'accord, super, on va prier pour vous. Voilà, et tout problème de migraine, des gens qui ont peut-être des migraines de manière régulière. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent concernées? Vous, toi, trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous, trop bien. Et alors, levez la main, ceux qui ont envie qu'on prie pour eux, vraiment, levez la main bien haut. Vous aussi, les gens qui ont été cités, madame, si vous l'avez compris pour elle, vous aussi. Et maintenant, les gens qui n'ont pas la main levée, dirigez-vous vers ces personnes qui ont la main levée et posez la main sur votre épaule. Déplacez-vous. Les gens qui veulent qu'on prie pour elles, laissez bien haut vos mains. Laissez. Et les gens autour, déplacez-vous. Maintenant, vous êtes les équipiers de prière. Vous pouvez vous déplacer de vos rangs, laissez bien haut les mains et les gens, maintenant, vont venir vers vous pour prier pour eux. Trop bien. Il y a encore deux personnes devant. Est-ce que des personnes peuvent se déplacer pour venir devant? Laissez bien haut votre main, monsieur, avec le t-shirt perroquet. Trop bien. Et une autre personne, deux personnes encore devant, peut venir. Vous derrière, trop bien. Quelqu'un arrive. Et on va prier tous ensemble pour vous. Super. Et maintenant, on va prier de manière simple. On va juste demander à Jésus d'agir dans les corps et de toucher vraiment les corps physiques. Élevons nos voix. On demande juste à Jésus d'intervenir. Seigneur, on te prie pour ces guérisons-là. Seigneur, on te prie pour une percée, Seigneur. Tu vois ces problèmes physiques, Seigneur, on te prie pour une guérison, Seigneur, complète. On te prie, Seigneur, au niveau de Seigneur, si c'est des problèmes au niveau osseux, viens restaurer, guérir entièrement Jésus. Si c'est au niveau des ligaments, des muscles, viens agir, Seigneur. On te prie de ressouder, Seigneur, des ligaments qui ont peut-être été fissurés. On te prie vraiment d'agir, Saint-Esprit, pose ta main. Et on te prie pour une guérison complète, Jésus-Christ. Une guérison complète sur les corps de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. pose ta main, Seigneur, plus que toute autre chose, sur leur vie, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Père. Merci, Seigneur, de poser ta main guérissante, Seigneur, aussi au niveau des migraines. Pose ta main, Seigneur, on te prie pour une guérison complète en ton nom, Jésus-Christ. Une guérison complète sur tous nos frères et sœurs. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On peut applaudir Jésus pour ce qu'il fait. Trop bien. Je vous encourage, sur les deux prochaines semaines, de regarder comment ça va. Et après, de venir vers le président. Voilà, Luc, quand il sera de retour de vacances, on ne veut pas l'embêter en vacances, on ne va pas lui écrire de message. Mais voilà, si vous avez été guéri, partagez-le aussi à l'église. C'est toujours très encourageant. Je vais finir en vous présentant avec mon frère jumeau. On a eu la chance où on nous a demandé d'écrire un livre sur le témoignage personnel qui est juste là. Et on en a pris quelques exemplaires qui sont sur la table ici. On peut le payer par Twint. Cash, ça va être compliqué, j'ai oublié de prendre de la monnaie. En fait, c'est un livre sur comment évangéliser de manière quotidienne, auprès de notre famille, dans notre sphère de travail, peut-être dans nos loisirs ou dans notre quartier. Et c'est vraiment un livre qui se veut pratique. Tous les chapitres sont construits de la même manière. Il y a un côté théologique, après il y a des témoignages qu'on a vécus et des questions qu'on peut se poser sur comment mettre ça en pratique dans notre vie. C'est super pour des groupes de maison. C'est super aussi si tu bois un café avec une amie, un ami, et tu peux lire ce livre et vous poser des questions mutuellement. Il y a un côté charismatique, vu qu'on parle des dons de l'esprit aussi dans l'évangélisation, la prière pour guérison, l'écoute de Dieu, toutes ces choses-là, comment on peut mettre ça dans notre vie, en route pour pouvoir bénir les gens autour de nous. Voilà. Et normalement, il n'y a pas les témoignages que j'ai dit ce matin, comme ça, c'est que des nouveaux témoignages. Trop bien. J'ai fini.